Bonjour Nicolas Stocker, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, je vais très bien Arnaud. Bonjour mon cher Arnaud, que je remercie d'avance pour la réalisation de ce livre journal de géopolitique profonde. Merci à lui, merci à ses collègues, merci aux techniciens, sans qui, eh bien, nous n'aurions pas ces belles émissions de cette belle radio libre, indépendante, qui est Radio Courtoisie, votre radio, chers auditeurs. Je pense qu'il doit être présent Patrice au standard de Radio Courtoisie. Vous n'hésiterez pas à lui poser vos questions ou faire vos remarques. Par standard, oui, c'est possible. S'il est là, n'insistez pas si ça sonne dans le vide. Et s'il ne répond pas... Ah, il est là, me confirme Arnaud. Donc, vous pouvez l'appeler. Et puis sinon, courriel électronique, que ce soit Arnaud ou que ce soit Patrice, cela me sera renvoyé. Donc, je pourrai lire vos questions et participer ainsi, vous le pourrez, à cette émission avec les invités, avec l'invité que je vais vous présenter dans un instant, ainsi qu'avec celle qui m'assiste exceptionnellement le samedi matin. Normalement, il n'y a qu'un mercredi sur deux qu'elle est là, mais elle a pu se libérer un petit peu plus tôt de sa matinale ce matin. Eh bien, il s'agit de Lara Stam. Bonjour, ma chère Lara.
Bonjour, Nicolas. Bonjour, chers auditeurs.
Voilà, alors pour Lara, eh bien, donc, nous allons pouvoir faire une petite revue de presse qui va changer des semaines précédentes. Et puis, puisqu'il est présent, bah, on va le saluer tout de suite. Il interviendra un petit peu après. Il pourra intervenir, s'il le souhaite aussi, en levant la main sur cette revue de presse. Il s'agit d'Olivier Rouault, membre du think tank Sovereignty et qui est aussi le président de l'Institut Anne de Moscou. Anne de Russie, excusez-moi. Voilà, bonjour mon cher Olivier, bienvenue.
Bien, bonjour Lara, bonjour Nicolas, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Je suis très heureux de discuter avec vous et de répondre à des questions.
Voilà, on avait déjà eu Olivier Rouault sur l'absolue nécessité de ne surtout pas aller voter. C'était son livre.
Je confirme.
Exactement. Je pense que ce n'est pas les derniers événements électoraux ou politiques qui ont dû vous faire changer d'avis. Rappelez-moi le titre exact de votre livre et la maison d'édition.
Ce livre s'appelle « Tu ne voteras point » dans une allusion un peu provocatrice aux 10 commandements. Et a été préfacé par quelqu'un que vous connaissez un peu, qui est Raphaël Auclair. Qui n'a pas fait que le préfacer, qui m'a beaucoup aidé à l'écrire.
Et alors, la maison d'édition, si on veut se procurer ce livre ?
Alors, vous le trouvez sur Amazon ou chez Les Bons Livres.
D'accord.
Édition Les Bons Livres.
Édition Les Bons Livres. Bah, très bien, bah, c'est un bon livre, ça tombe bien. Enfin, quelque chose qui correspond à la réalité. Ce n'est pas de la publicité mensongère. Eh ben, on va commencer tout de suite, chers auditeurs, si vous le voulez, la revue de presse avec Lara, l'événement majeur de la semaine. Il faut dire que nous étions déjà en revue de presse mercredi avec vous, pour ceux qui ont pu suivre le livre journal de la Résistance française à partir de 19h30 mercredi. Sinon, vous pouvez, à la demande, le consulter sur le site internet de Radio Courtoisie. Eh bien... L'événement marquant depuis mercredi soir, c'est évidemment l'adresse à la nation président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, alias le bonhomme orange, qui a fait une adresse à la nation qui a été assez fraîchement accueilli d'ailleurs par les médias américains d'ailleurs, bon, je ne parle même pas de nos médias qui sont à la solde de l'état profond américain, les médias de grand chemin européens et français en particulier, mis sous tutelle par la Macronie, eh bien, il a été en effet très mal vécu par les journalistes, obsession, tentative de saper l'élection, enfin tout a été dit sur cette... adresse, sachant qu'à mon avis, il y a dans ce qu'a dit Donald Trump des vérités indéniables et puis des énormités assez pathétiques qui, malheureusement, ressemblent de plus en plus au personnage. Il faut bien le dire. Donc, qu'est-ce qu'il a expliqué? Eh bien, finalement, qu'il y avait de l'ingérence. Alors ça m'a beaucoup fait rire de voir que lorsque Trump parle d'ingérence étrangère, ha, 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 on rigole, on se moque dans nos médias larbins occidentaux. Mais par contre, alors qu'ils sont les premiers à relayer la propagande du pouvoir sur l'ingérence extérieure et intérieure. Maintenant, hein, on en a parlé lors de la dernière revue de presse, l'ingérence extérieure, c'est les Russes. Ingérence intérieure, ce sont les médias indépendants qui ont le malheur de ne pas suivre la doxa, le fil rouge de la propagande officielle et qui sont immédiatement traités accusés de faire de l'ingérence intérieure, ce qui leur vaudra non seulement eh bien un bannissement, une invisibilisation sur les réseaux sociaux, mais aussi d'aller voir ce qu'il en est avec la justice, qui leur infligera souvent dans ces cas-là peine de prison avec sursis, infamant, interdiction de se présenter à des élections. Hein, privation des droits civiques et puis la sortie souvent quand même liberté, égalité, fiscalité, eh bien on donnera aussi son obol, hein, 10 000 euros, hein, il y a les 135 euros pour le tout venant, mais quand on arrive à la 17e chambre en général, c'est par dizaines de milliers d'euros qu'on inflige les amendes, hein, à tous ceux qui n'obéissent pas le petit doigt sur la couture. Alors, entendre ricaner nos médias lorsque Trump parle d'ingérence, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, si il y a quelque chose bien de pathétique dans cela, c'est qu'en effet, Trump, en parlant d'ingérence à la fois chinoise, nord-coréenne, mais aussi russe et vénézuélienne, enfin tout y passe, il y a quelque chose de pathétique, puisqu'on rappelle quand même que c'est ce qui lui a été reproché, les procédures d'impeachment, de destitution du président américain à partir de 2016, a porté sur l'ingérence russe, justement. À ce moment-là, c'était ses adversaires qui étaient les principaux acteurs de cette cabale contre Trump en disant « les Russes ont influé dans le sens de Trump l'élection de 2016 ». Voilà, donc aujourd'hui ressortir, mais en sens inverse, en disant « ils m'en veulent, ils veulent me faire perdre les élections », c'est vrai que ça a un côté assez pathétique chez Donald Trump. Après, moi je ne vous cache pas que je pense qu'il y a réellement un problème avec le système électoral américain et qui n'est pas nouveau et qui explique en partie le vol de l'élection à Trump en 2016, c'est-à-dire le fait que tout le monde peut s'inscrire sur les listes électorales avec un simple permis de conduire, voire rien du tout, et qu'on sait que les démocrates, eh bien, entretenant des viviers de migrants par centaines de milliers, ont toujours fait voter ces personnes, truquant, trichant sur les élections, sans parler du vote par correspondance. Et ça, que Trump veuille essayer de mettre un petit peu d'ordre dans cette système électoral de la soi-disant première démocratie du monde et qui en fait a un système électoral qui est catastrophique, hein, où les capacités de tricher sont considérables. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose de pathétique chez Trump de se déclarer la première puissance mondiale et de se dire finalement ne pas être à l'abri de pays comme le Venezuela pour l'ingérence étrangère, qui est le Venezuela aurait d'après Trump traficoté les machines à voter. Machines à voter dominionnes dont on sait que l'adresse sociale, il faut plutôt aller la chercher au Moyen-Orient, en Israël plus précisément, qu'au Venezuela. Et qu'il y a probablement de ce côté-là d'Israël, s'il voulait creuser un peu, mais il ne le fera jamais, bien sûr, Trump, puisque ce sont ses principaux financiers, eh bien, c'est plutôt vers eux qu'il faudrait aller voir d'où vient l'ingérence dans le cadre des élections. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Lara, de ce discours, de cette adresse à la nation de Donald Trump ?
Écoutez, ce qui est assez marrant, c'est de voir nos médias européens se moquer de cet appel à nettoyer un petit peu les écuries de gias de Donald Trump au sujet des ingérences, lorsque cette même Europe pratique l'ingérence d'une façon sévère et on a vu ce qui s'est passé en Roumanie. On voit aujourd'hui ce qui se passe en Allemagne. Nous avons en Allemagne Merz qui déclare que même si l'AfD gagne les élections, ils ne seront pas au pouvoir. Donc nous sommes dans des pays aujourd'hui qui réaffirment qu'en fait la démocratie n'est qu'un aspect. Enfin, il n'y a plus du tout de peuple dans cette démocratie. Il y a aujourd'hui une décision par des puissances qui va diriger le monde à travers justement ces simulacres d'élections. Et quand on voit comment on glorifie un président ukrainien qui vient sur le sol français, qui se permet de décorer notre président à l'Élysée, c'est inédit aussi, c'est jamais arrivé hein, qu'un chef d'État étranger puisse faire une cérémonie de décoration de notre chef d'État sur notre territoire. Ce n'est jamais arrivé. Et ça, ce sont des choses tout à fait nouvelles, comme ce qui est nouveau, c'est un président usurpateur qui se pavane et qui a les honneurs même de notre 14 juillet. Voilà. Donc cela, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je ne sais pas comment définir autrement. Lorsque Donald Trump essaye de faire au moins un acte, Save American Act, pour justement nettoyer ces élections de tout un tas d'ingérences, bah, écoutez, pour une fois, il a tout à fait raison.
Il a tout à fait raison que, en effet, Volodymyr Zelensky était au 14 juillet, on en a déjà parlé, mais en tout cas sur les Champs-Élysées, puis ensuite sur des réceptions à l'Élysée, et qu'il ait pu en effet décorer
chose qui n'a pas du tout été relatée par ni notre presse, ni sur le site de l'Élysée, vous ne trouverez trace de cette décoration. Il faut aller en Ukraine pour découvrir sur le portail du président ukrainien des images et les récits de cette décoration par la médaille de liberté. Il a décoré notre président au sein même du palais de l'Élysée.
Merci Lara. Je vois que Olivier Rouault veut intervenir. Eh bien, on va tout de suite lui laisser la parole. Olivier, allez-y.
Oui, je fais très court. Merci Lara, parce que j'apprécie, comme d'habitude, votre indignation et que je partage. Il y a un point qu'on n'évoque quasiment pas dans la presse et qu'on oublie d'évoquer maintenant, c'est que quand même ce Zelensky, assis à côté de Macron sur les Champs-Élysées, il vient de faire commettre par ses services un attentat à Monaco, où il a permis qu'une femme, une maman, perde ses deux jambes et un bras, qu'un jeune homme soit brûlé à 80% et qu'un papa soit gravement brûlé. On peut discuter longuement de savoir si le papa a droit au paradis ou pas, c'est vraiment pas le sujet. Le président ukrainien usurpé, comme vous l'avez dit, était assis à côté de Macron quelques jours après un attentat dont tout le monde sait que c'est lui qui les a ordonnés, en tout cas ses services. Et ça, si c'est pas un motif d'indignation, alors qu'est-ce qu'il y en a comme motif alors ?
Ben, c'est intéressant ce que vous dites, Olivier. Est-ce que vous voulez me dire ce que vous me disiez hier, Lara, sur les arcanes de... Il faut pas, encore une fois, et c'est pour ça, chers auditeurs, que vous avez la chance d'avoir Radio Courtoisie et qu'il faut l'aider. C'est que ce que vous allez entendre maintenant de Lara, c'est pas quelque chose que vous entendrez des médias dits mainstream de grand chemin, sur où tout est compliqué, où on sait pas trop. Est-ce que c'est un oligarque pro-Ukraine, pro-Russie? Est-ce qu'il était en bonne relation avec le pouvoir ou en mauvaise relation? Enfin, tout est emmêlé, on ne sait pas trop. Ceux qui étaient à l'origine de l'attentat sont morts. Tout ça ne sont que des initiatives individuelles. Enfin, on nous relate la la logique et le discours du pouvoir ukrainien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, selon vous, vous avez démêlé les chevaux du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qui était cet oligarque et pourquoi a-t-on tenté de l'assassiner ?
Nicolas, comme tout oligarque russe ou ukrainien, l'origine des fonds, c'est toujours tout à fait mafieuse. Donc voilà, tous les soviétiques étaient égaux au moment de l'URSS. Il n'y avait personne pour avoir, je sais pas, les biens de la famille ou tout ça. Donc partons du principe que tous les oligarques, à l'origine, l'argent qu'ils ont, il est plus ou moins de sources criminelles. Après, ou des délits. Concernant Yermolaïev, ce type n'était absolument pas un pro-russe. Donc arrêtons de croire ce que les médias
nous racontent.
C'est
ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous a expliqué.
Eh bien non, il n'a jamais été pro-russe. En revanche, il était en bisbille avec l'État ukrainien à tel point qu'en 2019, il refuse la citoyenneté ukrainienne en faveur de la citoyenneté chypriote.
Pourquoi
il le fait ? Parce que c'est le seul moyen de ne pas être extradé vers l'Ukraine lorsqu'il sera à un moment arrêté. Donc ces gens-là savent qu'à un moment, ils vont être arrêtés. Ce type est un monsieur béton de Dnipro, donc c'est-à-dire c'est un mania immobilier et à la fois, c'est le propriétaire de plus d'une centaine de call centers. Qu'est-ce que c'est les call centers ? Ah ben, c'est pas les petits appels qu'on vous passe pour promouvoir de l'immobilier ou vous faire acheter des fenêtres et des portes. Non, ce sont des call centers qui sont là pour en fait escroquer les gens, prendre possession de votre compte bancaire, le dépouiller, etc. Et c'est le business qui est le business favori de Volodymyr Zelensky. C'est lui qui chapeaute tout cela. Donc en fait, tous ceux qui pratiquent cette activité doivent lui rendre en fait les rétrocommissions en quelque sorte. En tout cas, il y a une façon systémique de rendre en fait l'argent à ce qu'on appelait encore en Russie, ça s'appelait krish, le toit, la couverture. Donc cet homme, il a petit à petit sorti du toit. Donc il a refusé de verser ce qu'il devait verser et il s'est retrouvé. Zelensky a décidé de le mettre en recherche.
Ce que vous m'avez expliqué pour résumer, mais vous m'arrêtez si je me trompe, c'est qu'en réalité, il s'entend, c'était un mafieux qui était dans les sphères du pouvoir. Ça, c'était tout était corruption et donc il y avait en effet une partie qui était délivrée aux dirigeants ukrainiens, une partie qu'il prenait pour lui. Et puis le Nabu, hein, on le sait, le Nabu qui cherche justement à lutter contre la corruption en Ukraine, parce que tout n'est pas si simple en Ukraine qu'on nous le fait croire et on l'a vu encore avec les dernières manifestation, la population est loin d'être derrière Zelensky de façon unanime. Donc le Nabu cherche à en finir avec cette corruption endémique en Ukraine. Donc l'oligarque mafieux se dit, puisque on cherche à lutter contre la corruption, je vais arrêter de payer, hein, qu'ils se débrouillent d'abord, qu'ils se mettent d'accord entre eux, et puis après je verrai à rendre ma quote-part. C'est ce qui était un danger mortel pour Zelensky et pour ses sbires. Parce que si les oligarques, si le super mafieux, le parrain, ne peut plus recevoir des petits mafieux de ses subordonnés, les loboles auxquels il prétend avoir droit, c'est la fin du système, c'est la mort du petit cheval, hein, pour les milliards foutus
mais
dans les poches
encore,
des uns et des autres.
Si
donc
il
se tente de l'assassiner.
Pire encore, Nicolas, si l'un de ces oligarques décide d'en faire référence, enfin de s'en référer à la Commission européenne lors d'un rapport ou d'une démonstration, mais là, ce sera fini. Donc, fallait tout de suite arrêter cette. Et il y a une démonstration dans cet attentat parce que aujourd'hui, ce matin, est sortie une vidéo où en fait, il y a une autre caméra qui est posée, une caméra qui est posée pour filmer la poseuse de la bombe et la famille qui arrivait au moment de l'explosion. C'était aussi signature. C'est seulement les services secrets qui fonctionnent de cette façon à avoir quasiment par un deuxième exécutant la preuve que le travail a été fait. Bon, le travail a été mal fait parce qu'il est resté en vie, donc il va parler maintenant. Il a commencé à parler. Il a dit la tentative d'assassinat, elle n'est absolument pas criminelle ou liée aux affaires. C'est politique. Voilà.
Ce qui m'inquiète beaucoup dans ce que vous dites, c'est que le SBU, les services secrets ukrainiens, dans un état mafieux, ne devrait pas fonctionner comme fonctionnent normalement, je dis bien normalement avec un peu de naïveté, les services européens. Je pense à la DGSE de M. Nicolas Lerner, dont on sait qu'il collabore activement avec le SBU, hein, la DGSE étant les services normalement d'un pays qui vit sous état de droit. J'avoue que ça m'inquiète. Ça m'inquiète. J'espère qu'un jour la DGSE, la DGSI et autres, sans parler du MI6 et de la CIA, mais c'est déjà le cas, ne vont pas un jour imiter les services du SBU. Olivier Rouault d'abord et Lara ensuite. Olivier.
Pardonnez-moi de toujours intervenir sur Lara, bien sûr, c'est pas parce que je sais tout, mais parfois ma propre indignation se réveille. Je voudrais rappeler aussi quand même que la DGSE collabore très activement avec le FSB, les services secrets russes, et je dirais même, compte tenu de l'effondrement complet, total, calamiteux de la diplomatie française, c'est même eux qui assurent les derniers services diplomatiques avec la Russie.
D'accord. Faites bien, merci de l'information intéressante, Olivier. Lara, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point ou sinon les manifestations, donc, puisqu'il a changé de gouvernement. Il avait décidé de changer de gouvernement, de virer la Premier ministre. Finalement, il a laissé le tout en plan. Il est parti au 14 juillet, français. Puis là, il est revenu. Et donc, il a des problèmes.
Il est revenu pas seul. Hein. Il n'a pas voulu rentrer seul. Donc, il a amené Ursula von der Leyen avec pour être sûr d'arriver à bon port. Ça aussi, ça dit quelque chose de la situation intérieure de l'Ukraine. Les manifestations continuent. Hein. C'est assez inédit de voir dans un pays en guerre, de voir des manifestations nombreuses et assez corsées qui continuent. Donc, la lutte des pouvoirs aujourd'hui en Ukraine, elle est féroce, mais elle est en place.
Alors,
Seuls les Européens ne voient pas cela.
Il paraît que Maria Zakharova a expliqué que les vacances à Kiev pour les Occidentaux c'était terminé, ce qui est peut-être un petit clin d'œil à la disparition de Lindsey Graham, hein, mort d'une maladie rapide, extrêmement rapide, dont le nom est paraît-il Iskander, et puis von der Leyen elle-même qui semble-t-il a dû se précipiter dans un bunker.
La nuit, Nicolas. Elle y a passé la nuit. Elle a goûté à ce que c'est la guerre encore en basse intensité, parce que Kiev n'est pas tout Kiev qui est bombardé. Ce sont que des usines militaires.
Tout à fait. Alors, très bien. Ancien général dirigeant l'OTAN qui développe une information qui peut faire peur. Le moment où la Russie frapperait des usines militaires en Europe ne semble plus être une perspective lointaine et nous n'avons aucune réponse, a déclaré le général de l'OTAN à la retraite, Harald Kujat. Nous voyons que la Russie réagit déjà à cela. Et qu'elle pourrait demain, eh bien, c'est la question cruciale, frapper directement le territoire européen. Or, les Européens n'ont pas de plan B, nous explique ce général. Qu'est-ce que vous en pensez, Lara ?
J'en pense aussi. je suis tout à fait d'accord avec ça, pour une raison un petit peu déviée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie subit par nuit entre 400 et 800 drones. À un moment, elle va arriver à une simple, mathématiquement, à une simple situation où les anti-drones, ou ce qui sert aujourd'hui à abattre et protéger les populations civiles de la Russie, vont être en diminution et en manque peut-être même. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire alors même qu'elle sait que tout cela provient des pays européens, que ce qui pouvait être construit en Europe et assemblé en Europe ne peut plus l'être puisque ces usines sont détruites. Donc il reste des hangars éparses, des choses pas très notables, pas très importantes. Donc se pose la question, quelle serait la le recours de la Russie dans cette situation. Moi, je pense qu'à un moment, elle va frapper ceux qui fournissent les drones.
Oui. L'Allemagne qui va participer d'ici 2027 à un exercice français de dissuasion nucléaire, annonce Friedrich Merz.
L'Allemagne a déjà participé à un exercice, c'était le 16 juillet, c'était avant-hier, et c'est sur le site de la défense, enfin du ministère de la Défense français.
Et il reparticipera à l'automne. Nouveau et il a voilà, il y a eu cette opération poker aussi auquel on pu assister en tant qu'observateur, je crois, les Britanniques et les Allemands, ce fameux exercice poker. Il faut dire qu'on est plutôt des joueurs de poker comme les Yankees que des joueurs d'échecs ou de go. En tout cas, c'est le niveau de notre diplomatie, comme l'a fort bien noté Olivier Rouault. Merz d'ailleurs prétend, ce qui est un fake, c'est une fausse information absolument grossière, que le général de Gaulle, en son temps, avait déjà proposé à Adenauer le parapluie nucléaire. C'est une vaste blague, c'est vraiment... Et alors, les journalistes, obséquieusement, notent ce qu'a dit Merz, sans jamais même chercher à le contester. De toute façon, ils n'ont aucune culture politique, en général. Donc, de toute façon, ça serait bien au-dessus de leur force que d'aller vérifier une telle information. Alors, on continue cette revue de presse si vous n'avez rien à dire de plus sur ces sujets.
Oh, il y a plein de choses à dire, mais le temps est...
Le temps nous est compté. Le fait que finalement, il y a l'inquiétude qu'on peut avoir, revenir peut-être juste quelques instants sur ce que nous avions dit déjà mercredi, sur le droit d'ingérence intérieure. Il y a aussi la suite de la loi Yadan, aussi avec Aurore Berger, qui est présentée en ce moment même devant la représentation nationale. On avait dit, la loi Yadan, qui pénaliserait, rendrait une faute pénale le fait d'avoir le malheur de dire du mal de l'État d'Israël, eh bien, on disait, voilà, ils ont renoncé avec la loi Yadan, Yadan étant une députée dont on se demande si elle est députée de l'Assemblée nationale ou députée de la Knesset du Likoud. Enfin bon, elle est censée être députée nationale, et donc on croyait qu'elle avait échoué justement à imposer cette proposition de loi, cet amendement. Et puis finalement, Aurore Berger avait dit « Je vais m'emparer de ce dossier et faire non plus une proposition, mais un projet de loi sur ce sujet, donc qui vient à durcir encore les lois sur le racisme. Tout devient racisme et donc peut-être puni. » Donc il y a cette inquiétude vraiment que la liberté d'expression, que finalement cette ministre du numérique qui avait parlé de délit d'opinion, sa langue avait fourché ce jour-là, avait-elle dit. Eh bien, on est dedans. Il y a aujourd'hui un délit d'opinion dans notre pays.
Mais c'est monstrueux, Nicolas, parce que en fait, tout l'appareil judiciaire qui existe pour vous poursuivre en cas de diffamation, pour défendre l'honneur de telle ou telle personne, tout cela est mis de côté. En fait, ça devient des instruments inutiles parce qu'il n'y a plus besoin de justice pour cela. D'ailleurs, c'est peut-être ils vont nous dire à un moment que c'est pour désengorger les tribunaux, pour s'occuper davantage des violeurs d'enfants et des pédophiles. Peut-être que ce sera un moyen de nous dire pourquoi ils mettent en place ces mesures-là. Donc, la loi d'Aurore Berger contre le racisme et l'antisémitisme, bonjour, donc on n'aura plus le droit de dire quoi que ce soit, au risque, non pas passant par un juge, mais on va perdre tout moyen financier de vie si on est considéré comme étant, sur simple décision administrative.
On rappelle, Lara, vous avez raison de dire qu'en effet, le prétexte des enfants et des jeunes est un prétexte courant, mais on remarque que la loi sur le cyberharcèlement, qui était censée protéger nos jeunes collégiens, lycéens, contre le cyberharcèlement, a surtout servi à une vieille mamie de 80 ans, certains disent même papy, pour incriminer des internautes qui l'auraient cyberharcelé Eh bien, il s'agit de Madame Brigitte Macron, ce qui est voilà. Donc cette loi n'a pas servi pour des jeunes, elle a servi pour quelqu'un, eh bien, qui a depuis longtemps sa jeunesse derrière elle. Même si les couvertures de Closer, de Paris Match retouchées cherchent à nous faire croire le contraire. Alors.
Tout cela, cher Nicolas, c'est calqué sur l'URSS, c'est calqué sur même la révolution d'octobre, le NKVD qui vient par la suite, et effectivement, même si eux se cachaient du fait d'arrêter les gens sans raison, sur simple dénonciation, parfois anonyme, souvent d'ailleurs anonyme. Mais au moins, ils avaient, comment dire, peut-être un petit peu, ils savaient que ce n'était pas bien ce qu'ils faisaient. Là, ici, on a des sénateurs et des députés qui parlent de ce genre de mesures tout ouvertement, pensant chercher, enfin nous présentant ça comme voulant protéger une quelconque, je ne sais pas, communauté ou tout ça.
Oui. Oui, Olivier Roux.
Allez, j'interviens encore, pardon.
Allez-y, je vous en prie.
J'aimerais rappeler quelque chose que vous savez, que vous avez remarqué, mais dont on ne parle pas beaucoup, et qui a probablement, c'est parce que je suis un type de mauvaise foi que je dis ça, qui a probablement un rapport avec la résurgence de la loi Adam. Souvenez-vous, qui défilait sur les Champs-Élysées, à droite de Brigitte Macron ? Le grand rabbin de France.
Oui.
Pourquoi le grand rabbin de France défile sur les Champs-Élysées avec le coup présidentiel le 14 juillet. Pourquoi pas
La
mosquée de Paris, ou pourquoi pas le nonce apostolique ou l'évêque de Paris. Alors, bon, le pourquoi, en fait, c'est une fausse question, j'ai la réponse. Mais il y a probablement quand même une concomitance avec la loi Adam qui est remise sur le haut du dossier actuellement.
Absolument, et d'ailleurs ils avaient tous promis de Le Cornu à Macron faire une loi justement pour punir sévèrement toute critique, même la plus anodine, de l'État d'Israël tel que voulu à la fois par en effet eh bien, un certain nombre de communautés, de lobbies françaises.
Ceux qui ne pourraient même pas faire en Israël, hein. ça ils ne pourraient pas.
Parce que en Israël, il y a une critique massive. La presse est beaucoup plus libre en Israël. Vous avez une presse israélienne, Haaretz, par exemple, qui est très hostile au pouvoir et au gouvernement Netanyahou et qui dit des choses qui vaudraient, si c'était dit en France, tout de suite la chambre correctionnelle. Ah ben bien sûr, bien sûr. Allez, un spécialiste en la matière, Macron, qui appelle à se méfier des sondages qui donnent Marine Le Pen vainqueur de la prochaine élection présidentielle, en expliquant « Ah, mais j'en connais en 2016 qui était déjà, se voyait déjà président, et puis qui en 2017, eh bien, ne le seront pas, puisqu'en effet, c'est lui qui va bénéficier, on le rappelle quand même, à Emmanuel Macron, d'un coup d'État judiciaire. Alors certes, les sondages se sont trompés, mais les sondages ne pouvaient pas anticiper le coup d'État des juges, qui a décidé, à quelques semaines ou quelques mois de l'élection présidentielle, de mettre en examen le principal favori. On voit qu'ils font exactement d'ailleurs la même chose en 2027, et qu'après tout, si le fidèle Richard Ferrand décide in fine que Marine Le Pen n'est pas, et ce aux ordres, on le sait totalement aux ordres de Macron, que Marine Le Pen n'est pas éligible en 2027, eh bien oui, Macron, tu as raison, ce sera un coup encore extraordinaire qui monte... Oui, Olivier, je termine juste, qui montre en tous les cas que les sondages d'été, d'automne de l'année précédente ne sont pas nécessairement ceux du printemps suivant. Oui, Olivier.
Non, j'ai failli vous couper pour dire, et Richard Ferrand est même capable d'intervenir à 3h du matin s'il le fallait. Hein.
Alors, oui, mais alors, vous voulez parler du QR code ?
Oui,
non. Du QR code, mais c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est un autre.
Bravo, merci, pardonnez-moi. Oui.
C'est un autre qui l'a... Mais non, mais il a été nommé aussi. Macron l'a aussi nommé il y a quelques jours.
Exact.
le vice-président, premier vice-président du Conseil d'État, qui en effet, séance tenante, a été réveillé, sorti des bras de Morphée à 3h du matin sur un appel de l'Élysée pour rétablir le fameux QR code qui a privé les Français de cette fête populaire qui est celui du défilé, où ils auraient pu copieusement siffler Macron d'ailleurs à l'occasion. Et oui, tout à fait, absolument. Alors, on continue, on termine rapidement maintenant cette revue de presse avec, on apprend au 1er août, tenez-vous bien, encore une augmentation de l'électricité de 2,5%. On gèle les salaires, mais 2,5% encore d'électricité, alors que nous sommes censés avoir, et de loin, le prix de l'électricité en France la moins chère du monde, grâce entre autres à notre énergie nucléaire. Eh bien, ça augmente encore. Pourquoi ? Toujours pour la même raison, nous faisons partie du marché européen de l'énergie, et donc nous suivons si, à partir du moment où les Allemands se sont tirés une balle dans le pied en refusant le gaz dont ils se servaient pour faire de l'électricité, le gaz russe, eh bien les prix ont explosé, mais ça c'était pas notre problème à nous. Nous on utilise très peu le gaz pour faire de l'électricité, nous on utilise de l'uranium, et c'est bien plus efficace, et en tout cas beaucoup moins cher. Et donc nous partageons le fardeau allemand. C'est certainement ça aussi, l'amitié franco-allemande qu'a encore vanté hier ou avant-hier Macron. Donc augmentation encore du prix de l'électricité. Lara.
Écoutez, j'ai pas de mots. De toute façon, encore une fois, lorsque on parle du couple franco-allemand, qui en tire toujours les bénéfices, c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes.
Sachant que les Allemands ne parlent jamais de couple franco-allemand. Bon.
Oui, mais quand l'Allemagne accepte d'être en amitié avec la France, c'est toujours pour prendre à la France ce qu'elle peut prendre. Donc, ça l'a toujours
fait. Saboter ce qu'elle peut saboter.
Je rappelle, encore une fois, les exercices nucléaires et la dissuasion nucléaire dont les Allemands pensent pouvoir bénéficier aujourd'hui. C'est incroyable. Ceux qui nous ont privés du nucléaire, en fait, ils veulent avoir le nucléaire militaire, voyez.
Sachant qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, la grosse commission de von der Leyen aussi nous met des bâtons dans les roues sur le nucléaire. Les futures tranches de centrales nucléaires sont contestées de façon tatillonne et mesquine par la commission de Bruxelles, qui vient par contre d'autoriser, sans ciler, les dizaines de milliards dépensés par Macron alors qu'il s'en va. Il se permet, en irresponsable, d'investir des dizaines de milliards dans l'éolien en mer. Et là, l'éolien en mer, là, Madame von der Leyen n'a rien trouvé à redire. Là, tout de suite, oui, très bien. Voilà, donc tout ce qui sape la France, tout ce qui nous détruit, tout ce qui détruit ce qui nous restait d'indépendance, peut-être l'indépendance énergétique, évidemment, sied parfaitement à la Commission de Bruxelles, dont on sait que von der Leyen est bien à la même nationalité que Merz et que les Allemands, depuis le début, cherchent des poux à la France quant à son indépendance énergétique. Dernier point, peut-être, Lara, de cette revue de presse, avant de passer à la grande interview d'Olivier Rouleau. Alors là, c'est un petit clin d'œil, mais quand même, dimanche, donc finale de la Coupe du Monde, malheureusement en même temps, tant mieux, je crois que c'était en 2018 à Sochi, la finale de la Coupe du Monde, c'est ça, en Russie. Alors on avait eu des images vraiment pathétiques de Macron, vraiment dans les tribunes, c'était vraiment, on sentait qu'il était sous influence de je ne sais quoi, mais enfin,
il était très excité.
Oh là 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 là, mon Dieu, il avait fait honte à la France entière. Il avait, c'était pas contre la Croatie la finale ou quelque chose comme ça.
C'est ça.
Il avait pris la main en croisant les doigts avec la première ministre croate. Enfin, il avait été vraiment. Après, il y avait eu le AK, pas le AK, je ne me rappelle plus trop quoi, une espèce de truc comme ça là, à l'Élysée. Enfin, ça avait été vraiment la fois. Il avait tout fait pour
pathétique.
Évidemment. Il avait fait de la récupération politicienne sur cet événement fouteux. Cette fois-ci, il ne ne le pourra pas. Hein. Il a qu'à aller venir voir la petite finale. Il paraît que de toute façon, c'est épouvantable. Le temps est dramatique à New York avec des espèces d'émanations de fumée de forêt, de feux de forêt canadiens qui d'ailleurs, le bonhomme orange est furieux contre les Canadiens qui risquent de lui gâcher la fête de la finale de la Coupe du Monde et a menacé les Canadiens de centaines de pourcents de droits de douane supplémentaires. Il est vraiment... C'est pathétique. Hein. C'est pathétique. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur la finale, quand même, c'est le mot de la fin de cette revue de presse, c'est que celui qui a été choisi pour arbitrer la finale, il y a eu énormément de problèmes d'arbitrage durant cette Coupe du Monde, mais c'est pas nouveau. Hein. Déjà, en général, les Coupes du Monde étaient traficotées pour favoriser le pays qui accueillait la Coupe du Monde. On rappelle la honteuse victoire de l'Argentine en Argentine, il y a c'était dans les années 80, hein, où on avait volé, entre autres, la France, sur un match de poule, et tout avait été fait par le corps arbitral pour faire gagner le pays accueillant la Coupe du Monde, qui était l'Argentine, dont on sent d'ailleurs qu'elle est à nouveau très favorisée, l'Argentine. Est-ce parce que Milei viendra, l'ami du bonhomme orange, à la finale? Mais en tous les cas, on apprend quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que celui qui a été choisi pour arbitrer, l'arbitre de centrale principale donc d'Espagne-Argentine, un certain Slavko Vincic, qui est un Slovène, a été dans le passé accusé de proxénétisme et de trafic d'armes. Alors là, j'avoue, mais voilà quelqu'un qui est totalement indépendant et sur lequel on n'aura aucun moyen de pression. Il a été donc dans le passé. Mais non, mais c'est absolument incroyable. C'est incroyable.
Bon. Ah bah oui, c'est incroyable, mais ça signe en fait le tout. Cet arbitre qui est mouillé dans une perquisition où en fait on trouve des colis de cocaïne, des armes, voilà. Il se justifie en disant mais non, c'était pas une orgie. Bon, il y avait forcément des femmes aussi à cette réunion. Lors de cette perquisition, lui, il y était pour affaires.
Ouais. Voilà.
C'était un arbitre en affaires. C'est très bien. J'ai rien à dire. Effectivement, il aura, à mon avis, un cahier de charges à remplir pour
voilà.
Que ça aboutisse au résultat que j'avais prédit d'ailleurs depuis.
C'est vrai que vous avez prédit depuis le début que tout sera fait pour que l'Argentine gagne cette Coupe du Monde, hein, c'est ça?
Oui.
C'est votre pronostic. Moi, je pense que ça sera l'Espagne.
Il faudrait que Milei vienne avec sa tronçonneuse posée à côté de Trump, ce serait une belle photo. Voilà.
Un mot sur la Coupe du Monde, Olivier Rouault, pour conclure cette revue de presse?
Oui, un mot très court et avec grande joie, je confirme ma grande affection pour le rugby.
La tournée de l'équipe de France, c'est plus une tournée d'ailleurs, ça s'appelle le championnat des nations, je crois, dans l'hémisphère sud, après il y a un retour hémisphère nord, a été plutôt fructueux pour une fois pour l'équipe
c'est
de
ça.
France.
Mais c'est vraiment pas la même ambiance, y compris chez les supporters. La professionnalisation s'est faite plus tardivement et moins profondément. Elle est un peu moins sensible à la corruption des mœurs et financières.
Mais on dit bien que le football est un sport de gentlemen pratiqué par des bandits et le rugby est un sport de bandits pratiqué par des gentlemen.
C'est Churchill qui l'a dit.
C'est Churchill, vous voyez. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, écoutez, très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Lara.
Je vous en prie, n'oubliez pas le bobino, cher Nicolas.
Ben justement, je pense que Olivier, on va laisser passer ce très court bobino et puis on va se retrouver ensuite pour la grande interview de ce Libre Journal de géopolitique profonde avec notre invité principal, membre de l'association Sovereignty et aussi par ailleurs président de l'Institut Anne de Russie. Olivier, on vous retrouve tout de suite après ce très court bobino.
Merci, au revoir Lara.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Eh bien, nous nous retrouvons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce livre ou journal de géopolitique profonde. Et on rappelle en effet la nécessité de défendre cette radio libre, cette radio indépendante. J'aime cette notion de média indépendant, alternatif, réinformation. Tout ça est important aussi. Mais je pense que ce qui est le plus important et qui sied si bien à Radio Courtoisie comme à Géopolitique Profonde d'ailleurs, eh bien, c'est cette indépendance. Et nous l'avons chevillée au corps, nous sommes indépendants. Nous ne sommes soumis et sujets à aucune pression d'aucune sorte des pouvoirs constitués. Nous recevons donc dans ce libre journal, après cette revue de presse, eh bien, Olivier Rouault. Olivier Rouault, je le disais, membre de l'association Sovereignty, qui est un think tank, dont il va pouvoir nous dire quelques mots, comme il est président, par ailleurs, de l'Institut Anne de Russie. Mon cher Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, d'abord peut-être de l'association Sovereignty, et puis ensuite de l'Institut Anne de Russie ?
Oui, bien, bonjour à tous une nouvelle fois. Merci une fois encore de me laisser m'exprimer chez vous. Ce think tank, bien sûr, c'est un barbarisme anglo-saxon, mais il dit bien ce que ça veut dire. C'est une boîte à penser, on va dire. Est une organisation internationale qui regroupe une petite centaine d'experts, notamment en géopolitique, mais pas uniquement, issus d'une petite trentaine de pays, et qui a pour vocation à réfléchir à cette notion de souveraineté, ce qui veut dire ce que dit sovereignty. Je précise que le titre reste anglais, la dénomination reste anglaise, parce que l'association est totalement internationale. Nous sommes 4 Français, ou 5 Français, peut-être pas plus, dont l'un de vos invités réguliers, qui est Nicolas Mirkovic. Voilà, et qui est un de mes amis aussi. Et donc ce think tank a vocation à réfléchir sur cette notion de souveraineté, d'indépendance dont vous venez de vanter le prix, et de façon mesurée. Et donc, ça se fait par des échanges auprès de différentes personnalités, d'intellectuels qui aiment leur patrie et qui ont envie que les patries s'aiment entre elles, mais pas forcément qu'elles soient confrontées à un grand tout universel.
Très bien. Donc, ça, c'est pour l'association. Alors, l'Institut Anne de Russie, tiens, quel est le... dont certains l'appelaient Anne de Kiev, dont on sait qu'elle a fait une brigade qui n'a pas spécialement brillé sur le front ukrainien, qui avait été formée, des Ukrainiens formés par des Français, et qui avait bien donné la débandade actuelle qui fait que celui qui commandait cette brigade est aujourd'hui derrière les verrous pour un double meurtre. Olivier Rouault, pouvez-vous nous parler de cet institut Anne de Russie ?
Alors, je dois naturellement changer de casquette.
Voilà.
Car le think tank Sovereignty n'a absolument aucun rapport, ni avec la Russie d'ailleurs, ni avec l'Institut Anne de Russie. Et peut-être tout à l'heure, nous évoquerons des sujets prégnants actuels de l'Institut, de l'association Sovereignty. En ce qui concerne l'Institut Anne de Russie, c'est une association qui existe depuis 5 ans, qui a été créée notamment par 2 personnes, Raphaël Auclair et moi-même, une autre personne dont on oublie le nom et qui n'est pas intéressante. Et donc qui a pour vocation, comme vous le disiez tout à l'heure, à se montrer très indépendante des pouvoirs constitués et à travailler surtout pour l'amitié entre les peuples, les échanges culturels, les échanges de jeunes, beaucoup d'actions universitaires, beaucoup de conférences, et moi-même je fais régulièrement des conférences à Moscou. Voilà. Donc nous avons un journal qui sort tous les 4 mois, qui fait plus de 100 pages et qui est en français et en russe. Et plusieurs correspondants qui collaborent. Et voilà, le journal, par exemple, à sa dernière sortie, c'était il y a un peu moins d'un mois, a fait 28 000 téléchargements en Russie.
Quand même.
C'est-à-dire 27 000 de plus qu'en France. Donc, voilà. Donc voilà. Alors, il y a des conférences, il y a des tables rondes. Nous avons fait la dernière table ronde a eu lieu en novembre dernier sur le thème de la russophobie. La prochaine aura lieu en novembre prochain sur le thème de la guerre, si on a le temps.
Si on a le temps avant que la guerre ne se déclare, déjà.
Voilà. Et voilà, plusieurs écrits à droite, à gauche, etc. D'une certaine façon, on nous accusait de quelque chose qu'on veut bien prendre à notre compte, c'est de faire du soft power. Ben oui, quelque part, oui, on aime les Russes, on aime la Russie, on aime aussi les pauvres victimes ukrainiennes, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, et on ne peut pas comprendre pourquoi la France a atteint ce niveau de haine, de russophobie, comme on dit maintenant, mais je pourrais dire de haine anti-russe, c'est du pur racisme. La loi Yadan s'en occupera peut-être, heureusement. Et c'est du pur racisme contre la Russie, qui est inacceptable, incompréhensible, qui correspond ni au sens de l'histoire, pardon pour une terminologie un peu marxiste, et ni à la réalité des faits, quoi. Et nous nous appelons Anne de Russie en raison d'une princesse de Kiev, qu'on appelle aussi Anne de Kiev, qui s'est mariée avec Henri Ier, petit-fils de Hugues Capet, en France, et qui est devenue reine de France,
oui.
Et qui a fait aussi une sainte, qui était donc canonisée avant le schisme, donc qui est honorée des deux côtés, orthodoxe et catholique, et qui a aussi fait un roi, Philippe Ier, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé pour l'amitié entre la Russie éternelle et la France éternelle. Et nous tenons beaucoup à elle. Comme les Ukrainiens, aidés par Macron, ont décidé de faire de Anne de Kiev leur figure, leur Sainte Jeanne d'Arc à eux, nous appelons Anne de Russie, qui est un terme qu'ont aussi beaucoup utilisé les historiens, qui n'est pas iconoclaste. Voilà.
Alors, il y a cette russophobie. C'est un institut Anne de Russie qui eh bien, favorise ou aimerait pouvoir favoriser l'amitié franco-russe. N'hésitons pas à le dire. Et eh bien, elle est à zéro aujourd'hui, cette amitié franco-russe, à tel point que la propagande des médias a fini par toucher le cœur même de l'opinion publique française. Hein. Aujourd'hui, les Français eux-mêmes, dans une majorité des cas, même si ce n'est pas l'unanimisme des plateaux de chaînes d'infos en continu, eh bien, une majorité de Français sont extrêmement inquiet de la Russie de Poutine et lui sont globalement hostiles. C'est un fait. Comment lutter contre cela?
Alors d'abord, il faut dire qu'on rebat les oreilles des Français à longueur de journée, de semaine, de mois, d'année sur le fait que le russe est très méchant. Je ne sais pas comment on peut faire correspondre ça. On annonce que la Russie va envahir l'Europe, les Pays-Baltes pour commencer, etc. Mais ce sont des inventions, ce sont des mensonges, des vrais mensonges les plus pécamineux possibles. Ce sont des manipulations. Et les Français gobent. Les Français gobent. Comment voulez-vous qu'ils ne gobent pas? Ça fait au moins 30 ans, sans remonter jusqu'à la Révolution française, ça fait au moins 30 ans que la formation, l'éducation nationale, l'enseignement universitaire, la presse, comme vous savez, comme moi, fait tout pour les abrutir. Donc les Français sont anesthésiés, ils gobent ce qu'on leur dit, ils n'ont plus envie d'histoire, ils n'ont plus envie de réitérer les gilets jaunes, de se faire énucléer. Et voilà, les Français sont lymphatiques maintenant, c'est pas complètement de leur faute. Et par ailleurs, comme je vous disais, historiquement c'est incompréhensible, polémologiquement c'est incompréhensible, parce que Poutine lui-même a dit « mais je ne veux faire la guerre à personne, jamais, je peux l'écrire si vous voulez, je peux faire une déclaration solennelle sous serment, la Russie ne veut faire la guerre à personne ». Mais l'OTAN vient d'annoncer qu'en 2030, il ferait la guerre à la Russie de façon préventive et qu'il fallait qu'il se prépare. Ce qui, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils le disent, ça veut probablement dire qu'ils le feront avant. Donc c'est incompréhensible. Et là où ça devient épouvantable, moi je vais souvent en Russie, j'ai beaucoup, beaucoup de correspondants, je commence à baragouiner un peu le russe, je dois vous dire qu'en Russie, les Russes aiment la France profondément.
Oui.
Et c'est bouleversant, c'est terrible, c'est triste. Et quand je leur dis, mais franchement, vous n'êtes pas un peu fâchés de ce que dit notre président? Ah, mais la Macronie, pas pareil. Et c'est clair. Ils ont fait la différence. Et ils ont fait ce que Maurras avait fait très bien, en faisant la différence entre le pays réel et le pays légal. Spontanément, les Russes le font. Et ils parlent, beaucoup d'entre eux parlent français, et parlent même parfois un français époustouflant, mieux que certains français de la rue. Ils ne disent jamais de gros mots, par exemple. Et d'autre part, la population, en général, aime les Français. Ce qui nous conforte dans notre idée de travailler entre peuples, avec un S russe et peuple français, plutôt que de s'occuper de travailler avec les gouvernants qui passent, qui changent, et dont on n'en est jamais sûr à 100%.
Alors, cette russophobie, en effet, prend des proportions parfois inimaginables. Au niveau européen, par exemple, eh bien, on se demande si le simple Pékin, le simple citoyen russe, va pouvoir encore bientôt voyager, tout simplement faire du tourisme en Europe. Les pays baltes, qui sont les chihuahuas en chef, tellement ils aboient fort contre l'ours russe, demander à ce que l'on prive totalement de tout visa un russe. Un russe n'aurait plus le droit à aucun visa en Europe. On est en effet sur quelque chose, vous avez raison de dire que la loi Yadan devrait, même si elle ne le fera pas, bien sûr, s'occuper de ce cas de russophobie, parce que on en arrive à un degré de haine assez proche de ce que l'on avait pu connaître à un moment donné dans l'entre-deux-guerres vis-à-vis des communes, de la communauté juive, par exemple. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait aussi ce qu'on a un peu oublié, parce que s'il y a eu un génocide des Juifs, il y a eu aussi un génocide des Slaves. Et on ne parle pas suffisamment du génocide d'une vingtaine de millions de Slaves en Europe, perpétrés par l'Allemagne nazie. Et on a l'impression finalement que ce nazisme a encore cours en Europe, dans les pays baltes, en Allemagne. Madame von der Leyen, Madame Kaja Kallas, ce sont des gens qui, dans leur famille, ont d'authentiques nazis. On se dit que finalement, le nazisme n'a pas totalement disparu, même si il cache sa face la plus infâme aujourd'hui. Il la masque.
Oui, d'ailleurs, oui, vous dites très bien les choses, comme d'habitude, pardon. Mais n'oubliez pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine se revendique de plus en plus officiellement nazie. Et parlons des bandéristes qui affichent des postures, des gestes et des logos, des décorations totalement nazies. Et on voit Zelensky s'agenouiller sur la tombe de Bandera. Et ça, c'est au cœur de l'Europe. Et le discours est nazi. Et d'ailleurs, le comportement des milices nazies zelenskiennes sur la population rappelle les heures les plus sombres de notre époque.
Ça, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, Olivier Rouault, de ce problème dont on ne parle pas du tout. Hein. Quand on écoute LCI, vous avez une population joyeuse et unie ukrainienne derrière Zelensky et les journalistes subventionnés, accrédités par le pouvoir et par la propagande, nous explique que il y a cette formidable résilience du peuple ukrainien dont la résistance à l'ennemi russe est remarquable, fait plaisir à voir. Or, ce que vous nous expliquez, pour bien connaître, et j'aimerais que vous rentriez un petit peu dans les détails, si vous le voulez bien, Olivier, c'est qu'en réalité, il ne fait pas bon vivre. Et d'ailleurs, ils ont déjà quitté autour de 20 millions, je crois, d'Ukrainiens d'Ukraine. S'il y a des raisons à ça, c'est qu'il ne fait pas bon vivre dans un pays qui est devenu un véritable pays, au vu des descriptions que vous m'avez fait hors antenne, j'appellerais un pays fasciste. Au sens, il y avait les chemises noires avec les fascistes, et bien là, vous avez aussi des sbires du régime qui arrêtent, qui condamnent sans procès, qui exécutent, qui torturent. Et ça, vous en avez vous-même des témoignages directs, Hiro, puisque vous recueillez, je crois, des Ukrainiens.
Oui, notre association est délibérément pro-russe. Mais pro-russe, c'est une culture. C'est pas Poutine, c'est pas un État. C'est une culture. Il y a 92 sujets de la Fédération russe qui sont autant de peuples différents les uns des autres. Et l'Ukraine est un peu russe, quoi qu'en pensent nos élites européennes. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie attaque modérément l'Ukraine, parce qu'elle avait les moyens d'écraser l'Ukraine en 3 jours si elle avait voulu. C'est que c'est le berceau généalogique de la plupart des Russes. C'est la Russe de Kiev, R-U-S apostrophe, la Russe de Kiev. Et c'est le berceau de la Russie. Et c'est le berceau même d'une certaine civilisation. Parce qu'on y construisait des cathédrales en l'an 1000, comme en France, et pas du tout comme aux États-Unis d'ailleurs. En l'an 1000, il n'y avait pas de cathédrale. Il n'y a pas de bâtisseur non plus. Donc c'est le berceau d'une certaine civilisation riche. Tout à l'heure, on évoquait Anne de Russie. Quand elle s'est mariée, elle parlait le français parfaitement, mais aussi l'anglais et l'allemand, ainsi que le grec et le latin. Donc, et elle savait écrire de la musique, c'était incroyablement rare. Donc, on est vraiment dans un univers différent. Et donc, c'était à Kiev, effectivement. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voyons avec le régime de Zelensky, qui est un régime fantoche, qui est une marionnette complète, ce pauvre toxicomane est une marionnette complète dirigée par d'autres, dont il y en a qu'on peut nommer et d'autres qu'on n'aura pas le droit de nommer. Mais parmi ceux qu'on peut nommer, il y a tout simplement les anglo-saxons, les services des ministères ou des lieux où habite ou travaille Zelensky quand il travaille. C'est que des agents britanniques. Et notre financement obsessionnel français et européen de la Russie, quel lapsus, de l'Ukraine, est un financement qui ne fait que précipiter le peuple un peu plus. Parce que tout à l'heure, vous avez dit c'est un pays fasciste. Je sais bien que vous savez ce que vous dites, mais j'introduis une nuance. C'est un régime fasciste, car le pays ne l'est pas du tout. Le pays ne l'est pas du tout. Et effectivement, nous avons quelques Ukrainiennes dans notre institut qui ont dû fuir l'Ukraine en raison de la guerre et de la pauvreté, en étant profondément hostiles à la Russie, et qui ici, face à une presse qui n'est pas libre, ben, des réseaux sociaux qui le sont un peu plus, et une presse très marginale comme la vôtre, ont pu découvrir qu'en réalité, on leur avait pas tout dit sur l'Ukraine. Puis maintenant, l'information circule. J'ai une amie ukrainienne qui reçoit des informations de sa mère, qui me dit « Oh là 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 là, il faut que je m'échappe de ce pays, c'est pas possible. » Et donc voilà. Alors, après, on peut revenir sur les sujets de la cruauté du régime sur sa population. Peut-être que vous aurez une
Alors oui,
question après.
c'est vraiment, c'est, je pense que ça fait vraiment partie de ce qu'un média indépendant, un média libre, doit diffuser comme information, parce que ça va, en effet, totalement, et ce que vous m'avez dit, et j'aimerais que vous nous en parliez, va totalement à l'encontre de ce qui est dit dans l'ensemble des médias de grand chemin.
Mais d'abord, il y a dans ce pays, comme en France, c'est aussi une question de régime, des intérêts complets pour la matière humaine, pour la population, pour l'être humain, pour son âme, comme pour son bonheur. Donc c'est Aristote, puis un peu plus tard Saint Thomas d'Aquin, qui avait travaillé à comprendre quels seraient les critères absolus, universels et intemporels pour être un bon dirigeant d'un État. Et le critère numéro un, c'était « tu aimeras ton peuple ». Donc évidemment, là, on n'en est pas là, ni en France, ni chez Zelensky. Et donc la population est profondément méprisée. En revanche, comme d'habitude dans ce type de régime, les militaires, les policiers, les milices sont extrêmement bien nourris, bien payés, bien avantagés, et donc n'hésitent pas à taper sur la population. Il y a un des éléments les plus terribles qui devrait faire hurler le monde entier, l'Europe entière, et la France très particulièrement, nous, soi-disant fils des Lumières, même si c'était les Lumières franc-maçonnes, c'est le recrutement. Et donc, le TCC, le bureau qui est chargé du recrutement de la population, des hommes en Ukraine, agit d'une façon épouvantable. Vous allez faire vos courses tranquillement, vous dites à toute chérie, je vais chercher du pain, et d'un coup, il y a une camionnette qui s'arrête, vous faites tabasser, on vous met de force dans la camionnette, et vous partez sur le front. On n'a même plus le temps de faire de la formation maintenant. Et vous y mourrez statistiquement 12 heures après ou 24 heures après. Mais qui peut accepter ça? Aucun pays fait ça. Et maintenant, on y emmène des femmes, maintenant, on y emmène des handicapés, maintenant, on y emmène des gens de plus de 60 ans, des jeunes de moins de 18 ans. Mais c'est profondément inacceptable. Si on doit faire la guerre, c'est à ça, bien sûr. Et rajoutons que ces gens vivent de corruption d'une façon épouvantable. Les dizaines et dizaines de milliards que le régime français a soustrait à sa population, à ses hôpitaux, à ses écoles, à ses retraités, à tout ce que vous voulez. N'alimente pas forcément la population ukrainienne et même pas forcément l'armement qu'utilisent les Ukrainiens. Il alimente surtout les poches des oligarques et des gouvernants. Et chacun le sait, c'est documenté. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça me met en colère. Je suis désolé. Et donc la population a à souffrir effectivement les tortures, comme on le faisait du temps des nazis. Des fois on attrape une vieille dame. Allez, ton fils, dis-le-nous. Il est pro-russe, hein, tu le sais. Mais pas du tout, d'ailleurs, il parle même pas russe, il est trop jeune. Et il est trop jeune, c'est parce que depuis 2014, le russe est interdit en Ukraine. Et donc, on la torture un peu quand même pour savoir, et puis on la laisse avec un doigt en moins, des ongles en moins, et puis on verra plus tard. Et on fait ça toute la journée en Ukraine, toute la journée. La population est passée d'environ 45 millions d'habitants à environ 20 ou 25 millions d'habitants, et là-dedans, il n'y a quasiment plus d'hommes. Alors dans cela, il y a tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont quitté le pays en cachette et tous ceux qui sont expatriés officiellement. Mais les morts sont incroyablement nombreux. Et dans ceux qui restent, et bien, ils meurent de froid en hiver, ils meurent de faim, ils meurent de maladie, la santé ne leur arrive plus. Enfin, c'est épouvantable, c'est de ça dont on devrait s'occuper. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a deux grandes raisons. Il y a le régime, le fameux système militaro-industriel qui se nourrit comme jamais actuellement. Et la France, Macron vient de découvrir que c'était une source de devises. Lui qui a surendetté la France comme jamais. Il se dit là, je gagne un peu d'argent. Et donc, il entretient la machine comme le font les Européens, notamment Ursula von der Leyen. Certains fonctionnaires très spécialisés dans des services extrêmement pointus me disent que de toute façon, la plupart des gens qui prennent des décisions d'envoyer de l'argent en Ukraine en palpent un peu au passage. Bien sûr, je ne sais pas de qui on parle, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, en tout cas. Donc, c'est abominable. C'est abominable. Puis, il y a une deuxième grande raison, j'évoquais à l'instant la première, donc d'entretenir un système qui peut-être fait gagner un peu d'argent. Mais il y a une autre raison. Voilà, je l'affirme sans état d'âme. Notre président de la République en France se rêve en grand César de l'Europe.
Oui.
Et pour ça, il lui faut bon, associer un hubris qui est pathologique, associé à probablement d'autres pathologies qui remontent à son enfance, comme chacun sait, associé aussi, peut-être, je n'en sais rien, à l'usage de substances qui ne sont pas bonnes pour ses neurones. C'est quelqu'un qui ne tourne pas rond. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, même Alain Minc lui-même le dit dans les colonnes du Monde. C'est quelqu'un de gravement déséquilibré. Et c'est le docteur Falamour, en fait, hein, pour les plus vieux qui se souviennent de ce film mythique. Et c'est quelqu'un qui rêve de faire la guerre pour avoir l'air d'un homme, pour avoir l'air d'un chef, pour avoir l'air d'un type formidable, et qui, en attendant, se rêve comme le grand César de l'Europe. Ça, je le maintiens. Et je crois qu'il fait tout pour. Et ceux qui payent le plus aujourd'hui, c'est les Ukrainiens. Et ça, moi, ça m'emplit de tristesse. Je ne veux pas participer à ça, ce n'est pas possible.
Oui, c'est un peuple martyrisé et qui a perdu une partie non négligeable de sa population. C'était un pays qui avait l'avenir devant lui. Hein, Macron, dernièrement, disait à un opposant dans la rue qu'on jouait notre avenir. Enfin, c'est surtout leur avenir à eux, les oligarques. Eux, l'oligarchie occidentale et globaliste, ils jouaient leur avenir en Ukraine. Ça expliquait pourquoi ils donnaient autant d'argent.
Alors, cela dit, sans vous contredire, je ne suis pas certain que ce soit un pays qui eut un avenir devant lui. C'est quand même depuis 70 ans ou 100 ans le pays le plus corrompu d'Europe. Avant 2014, ouais, enfin avant l'affaire Maïdan, personne n'était fichu de dire où était l'Ukraine, sauf Interpol. Parce que toutes les mafias possibles et imaginables, les plus sordides, avaient une naissance en Ukraine. C'est un pays corrompu, c'est un pays avec des régimes qui n'ont jamais tenu la route, depuis leur indépendance notamment, et même avant l'indépendance, du temps où c'était encore un pays soviétique, c'était un pays de corrompus.
Oui, mais justement, si c'était un pays, il y a des mafias, il y a de la corruption, là où il y a de l'argent. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un potentiel extraordinaire en Ukraine. Déjà d'être à la frontière entre cette grande Russie, immense Russie, et l'Europe de l'Ouest. Et donc en cela, elle avait cette possibilité de devenir un trait d'union entre la Russie et l'Europe, la Russie étant elle-même en partie européenne, et puis elle bénéficie de richesses considérables en terres rares comme en terres riches, hein, telles que les Tchernosium et toutes ces terres grasses et noires d'Ukraine. Donc,
c'est le grenier de l'Europe.
Le grenier de l'Europe. Donc, ils avaient un potentiel extraordinaire. Et aujourd'hui, tout est détruit ou tout est vendu. Hein, s'il y a une partie qui est détruite, l'autre partie est vendue. Vendue, eh bien, même pour les terres à BlackRock, aux grandes multinationales prédatrices de l'Occident qui ont acheté et qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont fort maris de voir que leurs acquisitions sont aujourd'hui entre les mains pour partie de la Russie.
Ou risquerait d'être totalement dans les mains de la Russie. C'est vrai, vous avez cité BlackRock. C'est vrai que si ces gens-là qui ont dépensé plusieurs milliards pour acheter des terres arables et pour acheter des mines, si la Russie en prend possession, ils n'auront plus jamais rien.
C'est ça. Donc, est-ce que vous pensez que Macron est déterminé à aller à la guerre contre la Russie, parce que ce serait le seul moyen pour lui, finalement, d'accéder justement à ce rang d'empereur européen qu'il ambitionne, selon vous, Olivier?
Comme vous le savez, il est très compliqué de comprendre ce que veut Macron. C'est quelqu'un qui n'est pas déterminé ou qui ne se détermine que par rapport, dans le cadre de la recherche de son image et de l'idée qu'il va donner de lui. Donc c'est compliqué. Il est certain qu'aujourd'hui, il est en permanence en agressivité à l'encontre de la Russie. Celle-ci est patiente et résiliente, mais il suffira d'un geste maladroit pour que la Russie se fâche et ça sera vite fini de notre Europe. Je crois que Macron est capable, dans son ego surdimensionné, dans sa folie, de faire un geste inconsidéré en pensant qu'il a le droit parce que c'est lui et que c'est pas grave. Et je pense qu'il est capable de ça, effectivement. Nous avons quand même près de 1500 Français en Ukraine, qui sont ou des militaires détachés, ou des jeunes pauvres imbéciles manipulés, qui meurent très vite, et des mercenaires, et ça fait beaucoup de gens. Et il y a beaucoup, beaucoup de ces Français, souvent des militaires détachés, qui meurent. Et on ne le dit pas, bien sûr. Ils ont un accident en montagne, ça c'est assez fréquent, ou bien on les ramène en catimini en disant qu'ils rentrent du Mali, mais c'est pas impossible que Macron commette une erreur grave qui nous coûte très cher à nous.
Qui pourrait, voilà, une erreur grave qui pourrait nous coûter très cher. Et que vous voyez de quel ordre ?
Il est possible qu'il aide officiellement à un bombardement en Russie qui soit le bombardement de trop, par exemple. Les troupes au sol, c'est que de cerises. Les troupes au sol, de toute façon, elles ne vont pas en Russie. Et si elles y allaient, on durerait peut-être une demi-journée, aller 3 jours. Par respect pour ma lignée de parents officiers, mais voilà, on ne durait pas longtemps. Donc aujourd'hui, on se rapproche de la guerre de cinquième génération, avec Palantir, avec l'IA, avec la guerre presse-bouton que les utopistes nous préparent depuis longtemps. On y est là maintenant, et il est possible plutôt qu'on utilise des systèmes, des vecteurs très puissants, qui aille bombarder la Russie. On le ferait peut-être pas officiellement, mais ça se saurait que c'est nous. Et là, on serait puni tout de suite.
C'est ça, c'est à craindre. Un missile Flamingo, dont on sait qu'une partie est composée en France, élaborée en France, par les Français, par Safran, pourrait imaginer frapper une tour du Kremlin. On imagine quelles pourraient être les conséquences pour la France. On ose imaginer ce que ce pourrait être. Et il pourrait en tirer bénéfice, Macron, évidemment, pour nous déclarer en guerre et à ce moment-là verrouiller le pays, plus encore qu'il ne l'est déjà. Parce que pour les apprentis dictateurs, il ne l'est jamais assez verrouillé.
Alors, il y a un élément qu'on ne prend jamais en compte, parce que ça ne se fait pas. Dans le monde entier, je voyage beaucoup dans le cadre de mes activités professionnelles. Dans le monde entier, on parle religion simplement. Au bureau, dans la rue, au travail, à la maison, on parle religion. En France, ça ne se fait pas. La révolution est vraiment passée par là, avec ses lois de séparation qui ne sont même plus appliquées comme il le faudrait. Et on ne parle pas religion. Pourtant, je suis catholique. Et je veux noter un fait qui est très important, que vous avez peut-être remarqué, c'est l'affaire de la Vierge pèlerine en Russie. Oui. Un groupe de Français a été à pied faire le tour de la Russie avec une Vierge pèlerine, une Vierge qui était bénite, et qui s'est baladée en toute la Russie, y compris dans des lieux extrêmement orthodoxes, et qui a fini, cette Vierge pèlerine a fini par être offerte à Vladimir Poutine, qui l'a acceptée et qui est au Kremlin. Alors, ça ne dit pas tout, c'est peut-être juste une anecdote, mais je trouve ça très important. Je rappelle qu'à Fatima, en 1917, la Sainte Vierge avait quand même prédit que la Russie pourrait sauver le monde. Alors, c'est important.
C'est la Vierge de Fatima, voilà, Vierge de Fatima,
voilà, c'est ça.
Qui a en effet a traversé et qui a été transmise à Vladimir Poutine par notre ami Fabrice Sorlin, dont je ferai d'ailleurs l'interview et il parlera entre autres de cela mardi soir à 19h, le mardi qui vient, sur GPTV. Il y aura Fabrice Sorlin qui parlera de cette expérience où sa femme a été consacrée mère héroïque, avec leurs 10 enfants, et lors de son discours, il a transmis, en effet, il a remis comme cadeau à Vladimir Poutine, qui assistait à la cérémonie, cette Vierge pèlerine, Olivier, tout à fait.
Et ça, c'est un fait important. Voilà, c'est un fait. Les hommes font ce qu'ils veulent. Hein. Dieu leur a donné la permission, d'ailleurs, de faire le bien et le mal comme ils veulent. C'est le libre arbitre. Néanmoins, la Sainte Vierge a bien pistonné un peu ce qu'elle aime bien. Et je voudrais croire à ça parce qu'on n'a plus beaucoup d'autres chances. Parce qu'on parle de cette guerre, mais indépendamment de cette guerre, l'état de la France, l'état de l'Europe sont une catastrophe. Nous allons dans un mur épais, un mur dur et cruel. Et nous y allons tous. Pour de vrai, c'est la fin d'une civilisation, c'est la fin d'un grand chapitre. Et aujourd'hui, moi qui me passionne de géopolitique, J'ai un peu du mal à trouver des solutions, même si par un coup de baguette magique incroyable, on avait enfin un chef d'État, et je ne vois pas d'où il sortirait, et là, il n'y en a pas, même dans les dizaines de candidats potentiels. Même dans ce cadre-là, on ne pourrait pas se sortir de là où nous en sommes, sans une dimension surnaturelle. Je le crois sincèrement.
Oui. Et on rappelle que dans les mystères de Fatima, il y a eu aussi cette nécessité pour la Russie de se consacrer au cœur immaculé de la Vierge, parce que sinon, eh bien, les erreurs de Russie se répandraient dans le monde. Et on le voit bien.
Alors non, c'est plus précis et plus grave. Pardonnez-moi. C'est en fait dans les exigences de la Sainte Vierge à la petite sœur Lucie, c'est que le pape consacre le monde au cœur immaculé de Marie en association avec tous ses évêques, et qu'il consacre donc la Russie tout particulièrement. Et effectivement, il y a eu plusieurs tentatives,
Oui, il y a eu
dont
plusieurs tentatives. Ouais.
voilà un pape qui avait vaguement consacré le monde avec une poignée d'évêques, enfin bon, et j'ai fait un
Bah,
lapsus tout à
il y
l'heure, il
a
s'agit
eu
de consacrer la Russie.
Jean-Paul II, il y a eu et puis il y a François qui a essayé aussi, mais il semblerait que il fallait
Mais
le
ils
faire
veulent
en
pas faire ce que la Sainte Vierge a dit.
Non, ils ne le font pas. Et en tout cas, il disait que si ce n'était pas fait, les poisons du communisme se répandraient au travers le monde. Et le wokisme, le LGBTisme, le mondialisme, le globalisme, pour moi, sont les poisons. C'est une forme de communisme qui a muté.
Bien sûr, tout ça c'est du gauchisme d'essence pure, bien sûr. Et je vais vous dire, ce qu'on appelle un peu abusivement le fascisme aujourd'hui, parce que le fascisme c'est les faisceaux, il n'y en a pas, ce qu'on appelle l'extrême droite qui n'existe pas du tout en France, dans la plupart des cas quand il s'agit de dérives, moi je les trouve plus communistes que nazis. Et je pense que le comportement des bandéristes, bien sûr, ils vont chercher leur fantasme dans les images d'Épinal nazi, mais ils ont un comportement de soviétique de la pire espèce et de la plus mauvaise époque.
Olivier Rouault, on va donner droit aux questions des auditeurs avant de traiter à la fin de cette émission les informations sur un éventuel recasage d'Emmanuel Macron dans la galaxie Xavier Niel, qui sera notre dernier thème abordé. D'abord, les questions des auditeurs. Bonjour, monsieur le directeur d'émission. J'ai un grand plaisir, comme toujours, à écouter cette émission et les deux voix fidèles, votre assistante de grande qualité, un fidèle membre de cette radio. Eh bien, merci à vous, cher auditeur, pour ces satisfecit. Le quatrain de Michel Dumas qui nous manquait, eh bien nous avons son quatrain qui est justement lié à l'Ukraine. Fraîchement décoré, ce jaune et bleu bamboche, tenant de Bandera et des horreurs débauche, outragé chrétienté par ses nantis débauches. Par ses nantis débauches, pyrotechnie géante, orchestre en fou caboche. Merci à Michel Dumas
Très bien
pour
tourné.
cet excellent quatrain, bien tourné en effet. Un auditeur, cher Nicolas, quel plaisir d'entendre à nouveau Lara pendant la revue de presse. Pourquoi cette guerre européenne absurde contre la Russie? Après réflexion et en vous écoutant au fil des émissions, je vois plusieurs raisons. L'hubris des dirigeants, la relance des économies par l'industrie de la guerre, le détournement de l'attention populaire des problèmes intérieurs avec un ennemi imaginaire. Qu'en pense Monsieur Rouault?
Ben, cet auditeur voit très clair, il a tout à fait raison et on voit qu'il a l'habitude de vous suivre. Et donc, son analyse est tout à fait pertinente et on est bien là-dedans et on l'a un peu évoqué aujourd'hui. L'idée de détourner des affaires intérieures est une excellente suggestion aussi et très probable. Et il faut pas oublier que Macron est probablement l'homme le plus détesté de France aujourd'hui, quoi qu'en disent certains réseaux sociaux. Et je pense qu'il essaye de faire oublier ça.
Alors un auditeur, bonjour, depuis 1917, la propagande anti-soviétique par les capitalistes a été suivie contre les Russes. Ces peuples ont refusé d'être dépecés par les colonialistes occidentaux, par les nazis et maintenant l'impérialisme US. Vos analyses, me dit cet auditeur, sont superficielles. Définissez l'impérialisme russe pour comprendre le cours de l'histoire. Donc il y a une analyse en fait marxiste de cet auditeur. Lire Le Capital de Karl Marx, tout vous sera plus clair. Actuellement, les européistes transforment l'Union européenne en quatrième Reich. Ils se servent des processus des nazis entre 33 et 45. L'histoire se répète, le capitalisme est triomphant. Les peuples seront la chair à canon.
Ouais, il faut dire qu'il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort. C'est pas mauvais à 100% parce que le capitalisme est une nuisance. Le capitalisme et ses excès sont une nuisance vraiment grave et qui ont pris des proportions hallucinantes et pécamineuses. Bon, votre auditeur a raison de vous suivre et de mettre l'accent sur ce point-là. Après, Marx est très étonnant. J'ai beaucoup d'amis intellectuels qui relisent Marx actuellement et qui ne le rejettent pas à 100%. Bon, il est excommunié. On ne peut pas devenir marxiste, c'est pas bien. Cependant, on peut relire Marx avec intérêt. Il existe même un livre qu'on peut trouver qui s'appelle Lire Marx. Non, pardon, Lire le Capital. Et qui est un, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un livre intéressant. Et sur le capital, ce qu'il dit n'est pas toujours mauvais.
Olivier, on avait parlé de Macron tout à l'heure, on va y revenir. On rappelle que vous êtes membre de cette association Sovereignty, qui est un think tank justement de plusieurs nationalités. Et à ce titre, vous vouliez réagir sur des informations qui ont filtré dans la presse. Et oui, Emmanuel Macron va normalement quitter le pouvoir en mai de l'année 2027.
Croisons les doigts.
Croisons les doigts, voilà, rien n'est, ne vendons pas la peau du foutriquet, du perruquet avant de l'avoir tué. La peau, hein, c'est une image, il n'y a pas d'appel au meurtre, surtout pas. Et donc, je souhaite qu'il soit jugé, surtout pas
J'adhère.
assassiné. Emmanuel Macron, pour tous ses méfaits. Et bien, il y a cette information qui est parue dans la presse d'un recasage d'Emmanuel Macron en 2027 dans la galaxie Xavier Niel. Xavier Niel, on le sait, c'est le gendre d'un des hommes les plus riches du monde, Bernard Arnault. Xavier Niel lui-même, milliardaire. Détenteur d'une multitude, d'une galaxie d'entreprises, aussi bien d'ailleurs dans des domaines de télécommunication comme de la presse. Et Xavier Niel, donc, qui pourrait offrir un pont d'or et une voie de sortie à Emmanuel Macron une fois qu'il ne sera plus à l'Élysée. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Il nous reste en tout et pour tout dans cette émission 7 minutes, donc 5-6 minutes maximum.
Oui, eh bien, je vais tenter de tenir le délai. Oui, c'est un sujet important de réflexion pour Sovereignty, puisqu'il touche ou il risque de toucher à l'indépendance de la France. Pourquoi? Je reviens sur cette information. En fait, en France, elle date officiellement, je crois, du 5 juillet 2026, lorsque le journal Le Dimanche affirmait que Macron envisageait, après son départ de l'Élysée, de rejoindre Xavier Niel, qui est son ami, dans un poste sur mesure, disait l'article. Ça a été repris après par plusieurs journaux. Le premier après, c'était Closer. Et puis petit à petit, on a vu plusieurs journaux, mais tous avaient leur informateur privilégié. Donc il est possible déjà que ce soit un petit ballon d'essai qui provienne ou du groupe Niel pour faire pression sur Macron, ou de Macron pour faire pression sur Niel, ou dans tous les cas pour préparer l'opinion publique. Vous l'avez dit, Niel est quelqu'un de très puissant, il a un écosystème dans lequel on voit des groupes de télécommunications, d'infrastructures numériques importantes, d'investisseurs technologiques, de formations, de start-up, de participation médiatique hallucinante. Il est à la tête d'un réseau économique et relationnel hallucinant. Et bien sûr que Macron soit là n'est pas anodin, parce que cet ancien banquier de Rothschild que fut Macron va se trouver à l'aise dans ce groupe d'investisseurs qui comporte, outre Xavier Niel, il y a Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Il va se trouver à l'aise entre amis. Mais que pourrait-il y faire s'il y était? On se rend bien compte qu'il est là un promontoire incroyable pour pouvoir manipuler la presse, l'influencer, on va dire, allez, soyons polis, influencer la presse, influencer même les réseaux sociaux, influencer tout ce qui est médiatique et tout ce qui est opinion publique. Et pourquoi faire? Eh bien sûr, Macron est un homme qui avait certainement un mandat, c'est lui aussi un pantin, je l'ai dit pour Zelensky, mais ça vaut aussi pour Macron. Il obéit à des ordres qui ne sont pas ceux de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des Français. Et ces ordres, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est un homme qui a une mission. Cette mission est probablement d'écrabouiller toute culture nationale, toute velléité à se sentir français et à manger français, pour être noyé dans un grand tout qui s'appellerait l'Europe, dont il serait le chef. Il ne rêve que de ça. Il le dit, il le pense, il y fait allusion, et on sait que c'est sa direction. Donc aujourd'hui, un poste comme nouveau président de la Commission, c'est trop petit pour lui, surtout vu son ego. Là, il serait entre potes milliardaires et il pourrait agir au niveau européen sur l'art d'influencer les populations. Ce qui serait un poste encore plus pertinent et plus efficace même que celui de président de la République française, où il pourrait faire beaucoup de mal, beaucoup de mal. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? J'avoue que je ne suis pas sûr de que ce soit vrai, mais quand même, en tout cas, un haut fonctionnaire d'une maison très spécialisée m'a dit que c'était une discussion en cours. Ça ne veut pas dire que c'est une discussion réglée. Mais c'est typiquement le genre de poste qui est à la mesure du président Macron, qui pourrait devenir le plus grand influenceur de la planète, et pas pour notre bonheur.
Ce qui lui permettrait d'attendre soit de prendre la place de von der Leyen au niveau de la Commission de Bruxelles, soit de revenir dans le jeu français 5 ans après, en 2032.
Alors en 2032, de toute façon, il peut revenir portes ouvertes, parce que les Français... voilà, je ne vais pas trop dire de mal de mes compatriotes, c'est pas moi qui suis chargé du bashing anti-français, mais ils font de la peine quand même. Mais en revanche, Macron a placé ses hommes dans tous les postes possibles et imaginables, et des fois pour largement après 2032, donc le pays l'attendra. Oui. En revanche, je crois vraiment qu'il tient un poste plus important, européen, et la Commission européenne n'a pas d'intérêt pour lui. Il faut qu'il soit président de la Fédération européenne. Le préparer en 5 ans, c'est faisable.
Ça veut dire être influenceur, et ça veut dire donc modifier les traités européens pour arriver justement à une présidence de l'Europe qui n'existe pas en tant que telle aujourd'hui.
Oui, inciter à une modification des traités, oui. Parce que lui-même ne sera pas techniquement en charge de ces affaires-là, mais faire en sorte que ça arrive pour 2032 ou 2037, ça me paraît tout à fait possible. Il sera encore tout à fait à la hauteur de son âge, lui permettra d'être à la hauteur de devenir le Kaiser européen.
Alors, il faut se méfier en effet de l'information sur la galaxie Xavier Niel que rejoindrait Emmanuel Macron, parce qu'on sait qu'il avait déjà, il est coutumier d'énormes menteries, de mensonges plus gros, particulièrement grossiers. Ça avait déjà été le cas en 2016, où alors qu'il se préparait tous les jours à l'élection présidentielle, il avait expliqué qu'il allait monter une start-up aux journalistes qui avaient relayé. Ce qui était un mensonge, il savait très bien, il mentait effrontément.
En fait, c'est pas évident que ce soit un mensonge. N'oubliez pas qu'il a parlé de la France comme la Startup Nation.
Ouais.
Et c'était peut-être un jeu de mots privé, personnel, où il pensait déjà en termes de Startup Nation.
Oui. Le premier de cordée, Emmanuel Macron. Bon, ben voilà, Olivier Rouault, on rappelle, président de l'Institut Anne de Russie, membre de l'association Sovereignty, et bien, sur l'un qui, entre autres, parle de souveraineté, donc d'indépendance. Et bien, voilà.
Vous l'émission. Une troisième casquette, grand ami de GPTV.
Et grand ami de GPTV, eh bien, c'est la réciproque est vraie, mon cher Olivier. On était très heureux de vous avoir parmi nous, on devrait vous avoir plus souvent, mais vous n'êtes pas toujours à Paris, malheureusement. Et en tout cas, on a été très content de vous recevoir aujourd'hui dans ce libre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Je remercie encore Lara Stam, évidemment, Olivier Rouault, mais aussi Arnaud et Patrice au standard pour cette émission. Merci à tous, passez une excellente journée et je vous dis eh bien à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Émission diffusée en direct sur Radio Courtoisie samedi 18 juillet 2026 de 9h à 10h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.